Bienvenue au balado Les petits caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Spire, je suis votre animatrice et on débute cet épisode avec une chronique accompagnée de Carlos Castimblanco, économiste. Allô Carlos!
Salut, ça va bien?
Oui, merci toi!
Oui, ça va bien, merci beaucoup.
Aujourd'hui, on parle des hypothèques ou plutôt de leur structure puis de comment est-ce qu'elle met... les ménages québécois un petit peu à les rendre vulnérables en tant
oui,
que tels?
Exactement. Okay. On va parler de la structure hypothécaire au Canada, des idées de restructuration de la structure hypothécaire, puis on va vraiment étudier pourquoi on est vulnérable aux variations du taux d'intérêt.
Mm-hmm. OK, parfait. Donc, fait que petite mise en contexte.
Je pense que c'est bon. Donc, nous avons déjà parlé, toi et moi, dans d'autres épisodes, on vit une situation de hausse du coût de la vie.
Ouais.
Les ménages sont très vulnérables. On avait parlé ça sur le volet alimentaire.
Mm-hmm.
Pour parler du volet plutôt logement et hypothèque, il va falloir faire un petit rappel de la Banque du Canada.
Mm-hmm.
Donc, la Banque du Canada, elle a une mission, c'est vraiment la stabilisation des prix, une croissance stable des prix aux alentours d'une cible. La banque, sa cible, c'est le 2 % avec une fourchette opérationnelle, ça veut dire avec une fluctuation tolérée entre le 1 et le 3 %
Okay. Donc, elle veut que l'inflation se situe entre 1 à 3 % mais la cible, c'est 2 %
Exactement. Donc, pour son outil principal pour accomplir ce but-là, c'est vraiment le taux d'intérêt. Donc, la banque, c'est la banque maman, elle va parler aux autres banques commerciales, elle va leur dire vos produits de crédit et en général vos produits financiers doivent... transiger aux alentours du 5 %. Ça touchait pas beaucoup les aliments. On parlait que c'était une structure très différente. Cependant, mm-hmm. pour les produits hypothécaires, ça, c'est un produit de crédit. Donc, c'est lié au taux d'intérêt qui établit la banque centrale.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle le taux directeur?
Exactement, c'est okay. le taux directeur.
Donc, c'est lui qui dirige pas mal tous les autres taux.
Exactement, c'est lui qui va être comme un peu le cadre des autres taux dans les banques.
Parfait.
Donc, pourquoi est-ce que c'est si sensible ici? Donc, la propre banque elle-même, elle fait des rapports de politique monétaire, elle fait un peu l'aperçu des perspectives et, au niveau canadien et international pour voir l'évolution des prix. La banque elle-même, elle reconnaît que même si l'inflation commence à se modérer, ça va vraiment être les frais de logement qui vont rester un facteur, le facteur qui va contribuer le plus, en fait, à dépasser la cible de 2 %.
Ah ouais, OK, la hausse des loyers, en fait?
Des loyers en général, okay. si on parle de statistiques plus claires.
Ouais.
En janvier, l'inflation générale pour tout le panier de consommation, 2,9 % Habitation, ça inclut loyer, les coûts pour les propriétaires, ainsi que l'inflation des taux d'intérêt. Ça s'est situé à 6,2
OK.
Exactement. Et au Québec, c'était 6,8
OK. Donc, on voit que ça se modère au niveau de l'alimentation et tout, peut-être à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui sont moins problématiques. Mais au niveau du logement, l'inflation est encore très forte.
Est encore très forte, okay. qui est à la hausse aussi, contrairement okay. aux autres volets. Si on regarde un petit peu plus le ratio de la dette, ça veut dire le pourcentage que les ménages canadiens vont dépenser pour payer leur dette,
mm-hmm.
Nous trouvons que l'information la plus récente, c'est pour le troisième trimestre 2023. 52,2 % de leurs revenus se dédient à payer des dettes. C'est une augmentation de 6,7 % comparée au même trimestre de l'année 2022. Et si on compare au premier trimestre de l'année 2021, on va donner comme la période de base, c'est une augmentation de 12,7 %.
Okay.
Exactement. Si on parle spécifiquement des paiements sur les intérêts seulement, en 2021, c'était 6,2 %. Là, on est rendu à 9,26 %. Ça a augmenté de 50 %. C'est une augmentation...
C'est énorme.
Énorme, exactement.
Puis ça, est-ce que ça préoccupe la Banque du Canada?
Le problème, c'est que la Banque du Canada a une mission. Sa ouais. mission, c'est vraiment descendre les prix. Et les autres volets du panier, maintenant, sont en train de chuter, la hausse des prix.
Mm-hmm.
Ils sont très conscients que c'est un problème, quand même, que les ménages soient aussi vulnérables.
Mm-hmm.
Mais la politique est en train d'être, d'être efficace dans les okay. autres sens.
Ouais. Je comprends. C'est pas comme leur rôle de... Leur rôle, c'est vraiment de gérer l'inflation puis de s'assurer qu'on retourne à la cible.
Exactement. C'est vraiment leur rôle principal. La OCDE, c'est un organisme qui fait des études aussi économiques.
Okay.
On va parler aussi un peu de l'abordabilité oui. des logements au Canada parce que ça aussi, ça touche.
Mm-hmm.
Si on voit, ils ont un indice des prix de logements en termes nominaux, donc c'est juste la valeur des maisons et des ventes neufs ou anciens. Le Canada, on est le deuxième le plus élevé dans cet indice après les États-Unis. On est aux alentours de la moyenne de la OCDE.
Okay.
Si on regarde en termes réels, ça, ça veut dire en tenant compte le pouvoir d'achat de chaque pays.
Okay.
On reste deuxième, mais on dépasse la moyenne de la OCDE et on est presque double que l'Allemagne, qui est le troisième pays du G7.
Okay, donc dans ça, cet c'est indicateur. Au niveau de l'indice des prix des logements. Puis ça confond location et...
C'est vraiment la vente de nouveaux ou okay. vieux logements.
Okay.
Donc, si on le regarde en termes nominaux, des maisons aux États-Unis sont un petit peu plus chères, mais si on tient en compte aussi le pouvoir d'achat de chaque pays, ça commence à devenir plus cher ici. C'est plus marqué que dans d'autres pays.
Okay.
Et le dernier indicateur que je trouve que c'est très intéressant aussi, c'est le ratio entre prix de logement et le revenu des ménages.
Mm-hmm.
On est premier. On est premier dans le G7, on est premier dans le G20 et dans toute la OCDE. Oui, excuse-moi. Okay.
Mais quand tu dis on est premier, c'est pas une bonne chose.
C'est pas une bonne chose, exactement. On a le ratio le plus élevé du prix par rapport au revenu.
D'accord.
Comparé au G7, même aux États-Unis, au G20, puis dans la OCDE, on est seulement dépassé par le Portugal.
OK.
Oui. On a un ratio plus important si on le compare même à des pays plus riches comme le Luxembourg, les Pays-Bas ou la Suède.
Mm-hmm. Puis pour les gens qui disent comme oh, on doit augmenter les salaires, pourquoi est-ce que c'est pas une solution d'augmenter les salaires?
Les salaires, il faut les augmenter, il faut quand même qu'ils continuent à avoir un certain niveau, mais le problème c'est que les salaires font aussi des pressions inflationnistes. Donc la croissance des salaires devrait être légèrement plus haute que celle des autres biens si on veut que les personnes aient plus de richesse, mais avoir un salaire qui croît de façon trop élevée, si on commence à vraiment donner trop d'augmentation salariale, ça va aussi faire une pression sur les autres prix. Ouais. Donc, l'effet va juste s'annuler.
Ça serait comme courir un peu après sa queue. Là.
Exactement. Ça va être rétroactif. Ça ne va pas être nécessairement la meilleure chose au monde. Et vraiment, on doit travailler sur l'abordabilité.
OK, je comprends. Je comprends que ce n'est pas le sujet du jour non
plus. Oui, non.
Mais c'est une question que je me posais.
Oui, je comprends parfaitement. Donc, comme tu vois, on a un problème d'abordabilité. C'est cher aussi pour les hypothèques. En parlant d'hypothèque spécifiquement dans le volet logement, pourquoi est-ce que c'est si cher? Donc, on va parler un peu en termes général, de certains éléments de la structure hypothécaire au Canada, puis on va la comparer à celle des États-Unis, qui est un pays quand même similaire.
OK.
Donc, la durée d'un prêt hypothécaire, aux alentours de 25 % ici au Canada. 25 ans.
Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on veut dire par là, mais 25
ans. Non, 25 ans, excuse-moi. 100 % puis, du côté américain, c'est entre 15 et 30 ans.
D'accord.
Plus ou moins similaire. Ils ont quand même un petit plus de flexibilité de plus. Nous, on a des termes hypothécaires. Donc, entre 6 et 10 ans, mais la plupart des gens prennent 1 à 3 ans,
mm-hmm.
on a des termes hypothécaires. Tu négocies avec ta banque ou ton institution les termes de ton prêt et tu vas les renouveler à la fin de ton terme.
Okay.
Là, tu peux aussi avoir entre les conditions de ton prêt si le taux d'intérêt va être fixe pour la durée du terme ou s'il va être variable. Donc, il va changer selon les variations du taux d'intérêt aussi de la banque centrale. En plus de ça, pour les options de remboursement anticipé,
mm-hmm.
ça dépend aussi du type de prêt que tu as. Certains prêts sont ouverts, permettant aux gens de faire des remboursements sur le prêt sans problème, mais ils vont payer un taux d'intérêt supérieur.
Ah ouais, okay.
Oui, exactement. Sinon, les prêts fermés sur le terme, par exemple, sur les 3 ans, certaines banques permettent, il y a des conditions préétablies pour pouvoir faire des paiements, mais si tu dépasses ces conditions, exactement, il va y avoir des pénalités.
OK. Fait que c'est comme tu peux rembourser à chaque année, disons, 10 %
exactement, c'est l'exemple.
Du montant qui est financé peut-être sur le terme, donc mm-hmm. le terme qui est peut-être 1 à 3 ans.
Ou... Exactement. Okay. C'est exactement comme ça que
c'est avant de faire un remboursement anticipé, de s'assurer qu'on a les informations en main du remboursement qu'on peut faire, sinon il y a des pénalités.
Il y a des pénalités qui vont être en charge. Ça dépend de chaque contrat et de chaque institution financière, mais tu l'as décrit parfaitement.
OK.
Un des points forts du système hypothécaire canadien, c'est un peu la flexibilité quant au changement des prêts hypothécaires. Donc, si tu attends la fin de ton terme, tu peux soit renégocier, évidemment, tu dois renégocier les termes de ton hypothèque, mais tu peux aussi faire changement d'institution sans que ce soit une nouvelle demande de prêt hypothécaire. Ça va vraiment être un changement d'institution. Tu peux faire un peu de magasinage, voir quelle institution okay. t'offre un meilleur taux.
Fait que par exemple, que je suis une nouvelle acheteuse, puis que j'ai une préautorisation pour avoir un prêt de 200 000, puis que dans 5 ans, je renouvelle mon hypothèque. J'ai pas besoin de refaire une préapprobation pour me faire réautoriser pour, par exemple, 150 000.
C'est beaucoup plus simple, exactement. Okay. Ce n'est pas le gros processus du début de vraiment de qualifier pour une nouvelle hypothèque.
OK. Puis je peux quand même aller magasiner dans différentes banques.
Exactement, exactement. Aux États-Unis, donc, c'est un petit peu plus différent. Il n'existe pas un système qui est parfait, évidemment. Pour eux, c'est un système, le système en général, le secteur hypothécaire est plus réglementé. Donc, avoir accès à une hypothèque, ça prend plus de temps, 45 à 60 jours. Ils demandent des documents notariés ou des documents plus formels, ainsi qu'il y a des coûts et des frais initiaux plus élevés en général.
OK.
Oui.
Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est comme suite à la crise des subprimes un peu?
Exactement, c'est en 2008 et okay. ils ont décidé de faire une restructure de leur système hypothécaire. Donc, on va voir un peu que peut-être l'accès initial a l'air plus cher, mm-hmm. mais c'est beaucoup plus stable durant la période de l'hypothèque.
OK.
Donc, je pense que je t'avais déjà dit, la durée de l'hypothèque, 15 à 30 ans, plus ou moins. Les conditions hypothécaires sont différentes. Leur prêt, il ne nécessite pas de renégociation parce que ça n'existe pas le concept des termes.
Des termes.
Exactement. Mm-hmm. Tu négocies avec ta banque ou ton institution bancaire. Et ton taux d'intérêt, par exemple, il va rester fixe, si c'est ça l'entente que tu as, durant toute la durée de ton hypothèque.
OK.
Ils ont aussi un concept de taux flexible, mais ce n'est pas la même chose qu'ici. Par exemple, si tu prends 15 ans, pendant les 5 premières années, ça va rester la même chose, ça va être un taux fixe. Et après, les ajustements vont être une fois par année.
OK.
Mm-hmm. Fait que même leur taux variable reste beaucoup plus stable et facile à incorporer.
OK, je comprends. Ben c'est ça, on l'a vu là avec les gens qui avaient des hypothèques à taux variable, avec les nombreuses hausses, ben leur hypothèque changeait quand même assez souvent.
Exactement. Yeah. Les changements sont très discrétionnaires ici. Là-bas, c'est très planifiable. Mm-hmm. Et ils peuvent s'attendre, OK, il y a eu 3 changements de la banque, de la réserve fédérale. Je sais plus ou moins à quoi ce que je vais m'attendre.
OK, je m'attends à ce que mon hypothèque augmente. Et donc, exactement. Je vais peut-être couper un petit peu plus là et revoir des choses. Je comprends.
C'est exactement comme ça. Un point moins positif pour faire un changement de prix hypothécaire, c'est quand même possible aux États-Unis, c'est juste qu'il faut vraiment faire une nouvelle demande. Donc, c'est vraiment de nouveau à faire le processus, tous les frais associés pour faire un changement d'hypothèque. C'est pas interdit, mm-hmm. c'est juste plus long. Okay. C'est vraiment comme partir de zéro à nouveau.
Puis c'est pas obligatoire non plus, comme ça l'est quand même au Canada en tant que tel.
Plus que ça, c'est comme ça n'existe, le concept des termes hypothécaires mm-hmm. durant la durée de ton hypothèque, ça n'existe pas. Si t'as une bonne entente, si t'as eu un bon contrat avec ton institution financière, tu peux rester avec l'institution, tu as un bon taux d'intérêt, des bonnes conditions, okay. tu n'as pas besoin de renouveler ou changer.
Puis au Canada, ce n'est pas possible de, par exemple, avoir un terme sur 15 ans?
Tu peux avoir un terme plus long, mais le plus long que tu as ce terme-là, plus d'intérêt tu vas payer.
OK.
Oui, c'est ça le problème.
OK.
Y a aussi un petit bénéfice aux États-Unis, c'est les intérêts payés sur un prêt hypothécaire résidentiel peuvent aussi être déductibles dans le cadre d'une déclaration de revenu fédéral.
Ah oui?
Oui, pour eux, c'est possible.
OK.
Donc, si on fait un peu comme les conclusions, ça n'existe pas vraiment une structure hypothécaire parfaite dans le monde. Cependant, on peut voir qu'avec les fluctuations du taux d'intérêt, nous, on est très vulnérables.
Mais c'est ça.
Ça coûte très cher. On peut prendre certaines idées d'ailleurs qui font en sorte que, ouais, peut-être l'accès au logement va pas être soutenu par l'accès vraiment rapide et facile au crédit, mais ça va si la personne a accès à la propriété, il va avoir de meilleures conditions, ça va être beaucoup plus stable et beaucoup plus prévisible.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis en tant que tel, ça aurait un effet sur l'augmentation des prix du logement. Si on le sait que sur 15 ou 30 ans, ça va être le même paiement. Si jamais il y a une hausse des taux, ben tous les coûts reliés à ça ne devraient pas augmenter tant que ça, vu que le taux hypothécaire en tant que tel n'augmente pas.
Exactement. On peut aussi voir...
Est-ce qu'on le voit aux États-Unis si l'inflation au niveau des coûts du logement est... Eux, c'est quoi?
Ils ont un petit problème. Eux, ils n'ont pas de protection par rapport à la hausse des logements. Fait okay. que leur inflation en habitation aussi est très élevée,
ah, okay.
mais c'est différent.
OK. Ce n'est pas à cause de l'augmentation des taux. Ce n'est pas directement relié.
Okay. Exactement. C'est vraiment la vulnérabilité pour les consommateurs. On est ici en train de parler pour les consommateurs. Ça permet aux gens de vraiment bien planifier leur budget et de vraiment tenir en compte pour les prochaines 15 années, je vais payer ma maison. Ça va vraiment être sur cette structure. Je trouve que c'est très important aussi de ne pas pénaliser les gens qui veulent payer en avance.
Ben oui, pour les paiements préautorisés.
Exactement. Si quelqu'un fait beaucoup de temps supplémentaire et se retrouve avec un 15 000, et le 15 000 dépasse le 10 % dans un taux, dans une hypothèque fixe, il va y avoir des pénalités. Aux États-Unis, il n'y a pas de pénalités. On devrait encourager les gens aussi à payer leurs dettes et ne pas les finir. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'on demande peut-être, ça serait peut-être important de vraiment voir des concepts qui vont rendre les hypothèques beaucoup plus stables à long terme.
Puis ça, ce serait une piste de solution, selon toi, pour la crise du logement. Est-ce qu'il y en a une autre dont tu aimerais nous parler en finissant?
Oui, le problème, la crise du logement, c'est vraiment multifacétique. On a beaucoup de problèmes, ce n'est pas seulement les hypothèques. On a aussi une pénurie dans l'offre et dans la diversité de l'offre. On construit beaucoup de maisons unifamiliales, on devrait aussi avoir plus de densification, les gens devraient avoir accès à aussi des coopératives ou des logements à but locatif. Certaines personnes ne veulent pas acheter, c'est correct. On devrait aussi leur donner accès à du logement locatif. Donc, c'est vraiment, tout le monde doit faire sa part et même la structure hypothécaire et revoir un peu les règles qu'on a en ce moment-ci pour aider dans la crise.
Fait que c'est pas juste les propriétaires de logements locatifs qui peuvent faire quelque chose. T'es en train de dire que la Banque du Canada aussi pourrait revoir certaines façons de
faire. L'hypothèque et les structures hypothécaires n'est pas nécessairement sur la banque.
Mais c'est vrai.
Mais c'est un bon point que tu amènes parce que ça permettrait que l'instrument de politique monétaire n'ait pas d'impact aussi négatif sur les consommateurs. Il n'y a pas ce problème inverse.
C'est ça. C'est notre instrument. L'instrument pour gérer l'inflation resterait le taux directeur, c'est juste qu'il y aurait moins un impact rapide.
Moins qu'un impact rapide, il n'y aurait pas un impact aussi, excuse-moi pour mes mots, je veux dire comme violent.
Ouais.
Les hausses du taux ont été jamais vues depuis des années.
Ouais.
Et ça compromet vraiment le budget de plusieurs consommateurs. Fait que ça permettrait de contrôler peut-être des biens qu'on peut déplacer, peut-être acheter une voiture. Je peux la différer, mais je n'ai pas peur de ne pas faire mes paiements pour ma maison.
Ouais.
C'est très différent.
Ben merci énormément, Carlos. Ça a été très instructif. Fait qu'on continue le balado, mais cette fois-ci, on change de sujet. Fait que je te souhaite de passer une belle journée. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi aussi.
On poursuit avec Sylvie de Bellefeuille, avocate chez Options Consommateurs. Allô Sylvie!
Salut Marianne!
Aujourd'hui, on parle avec toi des fermetures ou faillites d'entreprises. Quels sont les droits des consommateurs? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet-là?
Bien, on a appris récemment qu'il y avait certaines entreprises qui s'étaient placées sous la protection de leurs créanciers. Je pense à Énergie Cardio qui ferme aussi deux centres sportifs. Et Lynx Air qui est une compagnie aérienne à bas prix, qui a annoncé aussi qu'elle ne fera pas, qu'elle ferme ses portes à toute fin pratique.
Je ne connais pas du tout cette compagnie-là. Elle a des avions ou c'est juste un site pour transiger pour des voyages?
C'est une compagnie aérienne qui existe depuis pas très longtemps. Là, ça fait moins de 2 ans qu'elle existe, mais elle ferme déjà ses portes, ce qui va laisser malheureusement bien des voyageurs dans une situation très inconfortable.
OK. Fait que compagnie aérienne, oui, ils ont des avions. C'est bon, je ne reposerai pas la question.
Donc, ça va soulever bien évidemment des inquiétudes chez les consommateurs qui font affaire avec des entreprises, ces entreprises-là, mais je voulais quand même qu'on en parle peut-être de façon plus générale parce qu'on sait que l'économie est dure et elle est dure pour plusieurs entreprises. Alors malheureusement, c'est probablement pas les seules entreprises qui risquent d'être amenées à fermer leurs portes dans la prochaine année ou les prochains mois. Donc, sans partir en peur, au moins savoir un peu à quoi s'attendre et quels sont nos droits comme consommateurs quand ça arrive.
Bien, tu as parlé justement de la loi, du fait qu'ils peuvent se protéger, qu'ils peuvent se mettre sur la loi de la protection de la faillite, quelque chose comme ça. Et c'est quoi cette loi-là?
Bien, en fait, la loi, lorsqu'on est en situation, quand une entreprise est endettée, il peut y avoir différentes façons de régler le problème. Il y a la faillite en bonne et due forme, celle qui est un peu semblable à celle que pour un particulier. Donc, le même processus existe aussi pour pour les entreprises. Mais il y a aussi un autre processus qui est plus un processus de restructuration, qui va être quand même encadré avec un syndic et tout ça. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de fermer les portes, mais peut-être de revoir la structure d'affaires, de revoir la façon de faire les choses.
Okay.
Et pendant cette période-là, l'entreprise va être protégée de ses créanciers. Donc, s'il y a des défauts de paiement, tout ça, il va y avoir des renégociations qui peuvent se faire pour justement permettre à l'entreprise de ne pas fermer et continuer de faire affaire autrement.
OK.
Donc, qu'est-ce qui arrive? Puis il y a d'autres cas aussi où ce n'est pas nécessairement une faillite. Des fois, c'est simplement une entreprise qui ferme ses portes tout simplement. Donc, là encore, si on a des choses qui sont pendantes avec, avec une compagnie, bien, on peut se retrouver le bec à l'eau. Alors, okay. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là?
Je comprends.
Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le régime va vraiment être différent selon le type d'entreprise et selon la situation. Pour prendre des situations où il y a simplement une fermeture ou un commerce qui cesse de faire ses affaires, il y a différents types de commerces qui ont parfois certaines obligations. Ce n'est pas tous les commerces, mais il y en a certains qui, dans certains cas, ont l'obligation d'avoir un compte en fidéicommis. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'elles reçoivent de l'argent des consommateurs pour rendre certains services, elles doivent mettre cet argent-là dans un compte à part qui est complètement différent du compte bancaire avec lequel la compagnie gère ses factures usuelles. Ce qui fait qu'en cas de fermeture ou de faillite, l'argent des consommateurs est protégé. Maintenant, ce n'est pas tous les commerces qui ont cette obligation-là.
Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de type de commerce qui peut avoir un compte en fidéicommis?
Oui, absolument. En fait, la loi prévoit que c'est le cas notamment pour les commerces qui doivent exécuter leur obligation au moins 2 mois après avoir reçu l'argent du consommateur. Donc, par exemple, tu achètes un meuble que tu dois faire sur mesure. Donc, ça se peut que ça prenne plus que 2 mois avant que tu aies la livraison de ton meuble. Alors, l'entreprise, dans ce cas-là, elle a l'obligation de mettre l'argent dans un compte en fidéicommis. Même chose pour les agences de voyage. Lorsqu'on fait affaire avec une agence de voyage, l'agence de voyage doit mettre l'argent dans un compte en fidéicommis.
OK.
Sauf pour utiliser, dans le fond, pour acheter les services qu'elle va t'offrir. Donc, pour acheter ton billet d'avion, ton forfait à l'hôtel, par exemple, elle va utiliser ton argent, mais uniquement pour ton forfait à toi, pas pour payer les réservations de quelqu'un d'autre.
Je comprends.
Et ces entreprises-là, où il y a d'autres situations aussi, où l'entreprise va devoir fournir un cautionnement à l'Office de la protection du consommateur. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est le cas justement des entreprises qui livrent des biens plus de 2 mois après avoir reçu l'argent des consommateurs. Ils peuvent avoir une exemption. Donc, au lieu d'avoir un compte en fidéicommis, ils peuvent dire « ben, je vais utiliser l'argent tout de suite pour faire d'autres choses, mais pour pouvoir avoir le droit de faire ça, elles doivent avoir une exemption, c'est-à-dire payer un cautionnement, donc une espèce de garantie qui va être gérée par l'Office de la protection du consommateur.
Okay.
D'autres entreprises n'ont pas l'obligation d'avoir un compte en fidéicommis, mais doivent quand même payer un cautionnement. C'est le cas notamment des commerces itinérants, des studios de santé ou des gyms, par exemple, des centres d'entraînement, des commerçants qui offrent des garanties prolongées et certains commerçants aussi dans le secteur automobile. Alors, si jamais une de ces entreprises-là ferme ses portes et n'a pas payé, par exemple, n'a pas livré ton meuble que tu as commandé et qu'il n'y a plus de contact, qu'il n'y a plus moyen d'avoir l'argent ou tu n'as plus de réponse auprès du commerçant de meubles, bien, ce que tu peux faire dans ce temps-là, c'est aller voir l'Office de la protection du consommateur qui, lui, va pouvoir rembourser les gens, payer des indemnités en prenant l'argent du cautionnement.
Ah, OK. Fait que le cautionnement, il est payé à l'Office de la protection du consommateur.
Exact. Donc, s'il y a un pépin, bien, à ce moment-là, les gens peuvent aller se tourner vers l'Office de la protection du consommateur pour ces commerces-là. Habituellement, quand ça arrive, l'Office va mettre un avis sur son site web, avis aux clients de telle ou telle entreprise. Okay. Donc, les gens vont pouvoir se tourner vers l'Office pour pouvoir être indemnisés. Donc, au moins, ça donne une petite protection. Ça ne veut pas dire qu'on va récupérer toujours 100% parce que si le cautionnement n'était pas suffisant pour payer toutes les réclamations, c'est possible qu'on reçoive seulement une portion, Mais au moins, c'est déjà ça de pris.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour le consommateur?
Ben oui, tout à fait. Les agences de voyage. On en a parlé, il y a le compte en fidécommis qui est une mesure de protection.
Mm-hmm.
Mais supposons, tu es parti en voyage, entre-temps, ton agence de voyage fait faillite, ferme ses portes, est pris à l'étranger, il y a des situations qui ne sont pas nécessairement payées ou...
Ça serait vraiment la pire des situations. Ton entreprise, ta compagnie aérienne avec qui tu fais affaire fait faillite pendant que tu es en voyage.
Ça peut arriver, mais quand on a fait affaire avec un agent de voyage, on a une protection financière supplémentaire qui est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Je pense qu'on en avait parlé probablement dans d'autres épisodes quand on a parlé du transport aérien. Bien, là encore, c'est vraiment une protection qui est intéressante parce que notre argent est protégé. C'est comme une espèce d'assurance. C'est pas tout à fait une assurance, mais ça y ressemble.
OK.
Donc, puisqu'on fait affaire avec une agence, il y a un fonds qui est prévu pour ce genre de situation-là. Donc, advenant qu'il y a un pépin, bien, on peut... là encore, c'est l'Office de la protection du consommateur qui gère ce fonds-là, mais ça permet à ce moment-là d'être indemnisé. Si l'agence, par exemple, a fait faillite ou des choses comme ça, on ne se retrouve pas le bec à l'eau.
Parfait.
L'autre mesure qui est peut-être un peu moins intéressante, mais là, ça dépend toujours des situations. Si on a une compagnie qui a tout simplement fait faillite, qui n'avait pas de cautionnement nulle part, ben là, à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus compliqué. La première chose qu'on va devoir faire, ben, c'est de voir est-ce qu'il y a un syndic qui s'occupe du dossier. Parfois, on va avoir des affiches qui vont être annoncées, ben, qui vont être affichées sur le commerce ou ça va être annoncé des fois dans les médias. Donc, de prendre note du nom du syndic. On peut vérifier auprès de l'office s'il y a un cautionnement, parce que là, c'est peut-être intéressant de l'avoir. S'il n'y a pas de cautionnement, ben, techniquement, on a une réclamation qu'on peut faire valoir contre l'entreprise. Maintenant, on a un hic. C'est une entreprise qui est en faillite. Bien, par définition, si elle est en situation de faillite ou d'insolvabilité, c'est parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on peut, oui, faire une réclamation auprès du syndic, par exemple, qui s'occupe de liquider l'entreprise, par exemple. Mais on va passer, malheureusement, dans le lot de toutes les créances. Donc, dans la loi, il y a différentes catégories de créanciers et de créances. Donc, il y a un ordre qui est prévu.
Ouais.
Donc, il y a des gens qui sont payés en priorité, puis il y a des gens qui sont payés en dernier. Malheureusement, ce genre de créance-là qu'on peut avoir contre une entreprise passe en dernier. C'est considéré comme une créance souvent qui est ordinaire. Donc, les derniers à être payés. Donc, on va commencer par payer toutes les prioritaires, toutes les gens qui ont des entreprises qui peuvent avoir vraiment différentes réclamations. Ouais. Et s'il reste quelque chose à la fin, encore faut-il qu'il en reste, bien là, ça va être divisé au prorata, donc selon les points de retard. Donc, si j'ai une réclamation de 1 000 contre une entreprise qui a pour 600 millions de dollars de dettes, les chances que je récupère quelque chose risquent d'être...
Plus faibles.
Bien, plus faibles, je dirais presque nulles dans certains cas. Okay. On va être réaliste.
OK, je comprends. Fait qu'ils doivent payer des créanciers qui sont plus urgents. Est-ce que ça peut être comme, par exemple, des actionnaires ou...
Ça dépend de chaque cas.
Ça dépend de chaque
c'est
cas.
C'est ça, là. Puis je ne suis pas spécialiste en liquidation d'entreprise, mais malheureusement, souvent, les créanciers, comme toi et moi... Donc, on risque de passer en dernier. Et le principe du prorata fait en sorte que notre créance, qui peut être très petite dans le lot... des dettes de l'entreprise va faire en sorte qu'on va récupérer à peine quelques sous si encore faut-il qu'il y ait de l'argent encore à distribuer, ce qui, dans bien des cas, ne sera pas possible.
Je comprends.
Il y a quand même une petite porte de sortie qui est intéressante. Lorsque, par exemple, on a fait affaire par Internet ou on a fait un achat à distance puis qu'on n'a pas reçu le bien, à titre d'exemple, bien là, je vais faire référence à un petit principe dont on avait déjà parlé il y a quelques épisodes, la rétrofacturation.
Oui.
Donc, si par exemple, ton meuble que tu as acheté en ligne, qui était peut-être sur mesure ou avec des...
Tu me donnes envie de m'acheter un meuble sur mesure, là!
ou du moins qu'il fallait faire parce que tu as une couleur très particulière que tu avais choisie, qui n'est peut-être pas toujours la plus populaire. On sait que tu as des goûts raffinés.
Merci.
Donc... Bien, dans ce cas-là, on peut, lorsqu'on n'a pas livraison du bien, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle une demande d'annulation, de résolution de contrat auprès du commerçant. Normalement, le commerçant a 15 jours pour nous rembourser, ce qu'il ne fera pas s'il est en faillite.
OK.
Et à ce moment-là, ça nous permet de faire une demande de rétrofacturation à l'émetteur de notre carte de crédit. Donc, si on a payé par carte de crédit, on peut demander à notre institution financière de nous rembourser. Alors, ce sera après à l'institution financière d'aller chercher l'argent auprès de l'entreprise en faillite.
Mm-hmm.
Au moins, ce ne sera pas nous qui allons assumer le risque.
Excellent. Puis pour ceux qui veulent plus de détails sur la rétrofacturation, c'était l'épisode 2 de la saison 4. Donc,
excellent.
Est-ce que tu voulais nous parler un petit peu plus de la situation d'Énergie Cardio pour nous donner des exemples?
Ben oui, pourquoi pas. On sait, ben là, ça va dépendre du moment ou de la diffusion, mais au moment où on se parle, on sait que présentement, il y a deux centres dont on a annoncé la fermeture. C'est celui, de mémoire, celui de Boucherville et celui de la place Versailles.
Mm-hmm.
Donc, pour ces gens-là, les gens peuvent faire une demande auprès de l'Office de la protection du consommateur parce qu'il y a un cautionnement qui a été versé par les deux centres sportifs.
Excellent.
Pour les gens qui font affaire avec d'autres succursales d'Énergie Cardio, il n'y a pas encore panique à avoir dans la maison. C'est-à-dire que c'est quand même une entreprise où il y a beaucoup de franchises et de franchisés. Donc, la structure fait en sorte qu'il y a plusieurs centres qui sont des compagnies indépendantes, donc qui ne sont pas nécessairement touchés par les mesures qui ont été annoncées par Énergie Cardio. Donc, tant que le centre demeure ouvert et continue d'offrir les services, ben, vous pouvez continuer d'en bénéficier sans problème.
OK, excellent. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Merci aux auditeurs ou à ceux qui ont regardé le vidéo du podcast. C'était un plaisir de partager ce moment-là avec vous et je vous invite à aller visiter le site de Options Consommateurs pour plus d'informations qui pourraient vous être très utiles. Merci. Bonne journée.